l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 11 mai 2026. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. À 6h passées de 15 minutes à Bukavu et dans la cité des Sang en territoire d'Ouvira. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, la situation toujours confuse dans la plaine de la Rosizi. Des sources sur place rapportent des mouvements de personnes armées et de civils avec leur bétail des sangs vers d'autres zones comme Luvungi, Katogota ou encore Kamagnola. Au sommaire également, des cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans sont rapportés dans la cité de Kamagnola en territoire de Walungu. Des acteurs sociaux dans la zone évoquent les mouvements de la population et les manques d'emploi suite à la situation sécuritaire comme cause de ces phénomènes. Et un sport, préparation des léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Le début est prévu pour le 26 mai prochain à Kinshasa avec une séance d'entraînement ouverte au public au Stade des Martyrs. Voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin. Radio Mandeléo en plusieurs lettres, le journal en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
La situation reste confuse dans la plaine de la Rosizi depuis le week-end, principalement dans la cité de Sangue, à Luvungi et vers Katogota en territoire d'Ouvira. Des sources sur place rapportent un mouvement massif de personnes armées et de civils accompagnés de leur bétail qui quittent la cité de Sangue vers d'autres zones comme Luvungi, Katogota et Kamagnola. Ces mouvements seraient dus aux informations faisant état des probables combats qui pourraient éclater à tout moment entre les troupes de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo dans la zone. Sans plus d'explications, responsable local à Luvungi indique avoir reçu l'ordre de quitter la zone. Malgré ces mouvements, les troupes de l'AFC M23 restent visibles dans la cité des Sangue et ses environs, tout comme dans certains villages du groupement de Kabunambo, alors que les éléments de FARDC et Wazalendo sont concentrés aux environs et dans la cité de Kiliba, rapportent les sources de la cité civile locale. Entre-temps, l'on rapporte les massacres d'au moins 5 civils dans les villages de Mutaru les 1, des maisons incendiées et plusieurs femmes violées. Des organisations de défense des droits humains parlent d'une violence sans précédent qui a caractérisé ces événements dont les auteurs restent non identifiés. Même situation dans les villages Kabere, Kihinga, Mubere et Mulenge dans la chefferie de Bafuliru où des combattants armés auraient commis plusieurs cas de violation des droits humains, notamment des massacres, des viols, des enlèvements et incendiés des maisons. Et je l'annonce au sommaire de cette édition du journal, plusieurs cas de malnutrition sont signalés dans la cité de Kamagnola en territoire de Walungu. Plusieurs alertes parvenues à Radio Mandeléo indiquent que ces cas sont plus signalés chez les enfants de moins de 5 ans. Contactés par Radio Mandeléo, des acteurs sociaux dans la zone indiquent que cette situation est la conséquence de la situation sécuritaire précaire qui a causé les mouvements des populations et le manque d'emploi. L'un d'eux, Kennedy Masumbuko, infirmier au centre de santé Kambara, plaide pour le renforcement des mécanismes de surveillance. Il propose la sensibilisation de la communauté sur l'alimentation de base et le suivi régulier des enfants ayant bénéficié des soins. Kennedy Masumbuko en parle au micro de notre permanent dans la plaine de la Rosizi ou Indojoué.
La population, il y a des déplacés, il y a des détournés, la majorité des n'ont pas d'emploi. Alors, de ma part, je peux parler, cette guerre est parmi la cause primordiale de cette malnutrition ici chez nous à Kamagnola. Manque aussi de sensibilisation et parler à la communauté comment lutter contre cette malnutrition ici chez nous à Kamagnola. Parce que la communauté, c'est là où proviennent les malades. Deuxièmement, si je parle de la communauté, parce que c'est elle qui oriente surtout les malades, c'est elle qui découvre surtout les malades dans la communauté. Pour nous, nous sommes censés toujours de continuer à sensibiliser parce que nous savons vraiment quel est l'impact de cette maladie dans notre communauté et c'est nous qui alertons toujours sur cette maladie.
Et les habitants de la ville de Bukavu et ses environs sont appelés à la vigilance suite au cas de disparition devenu récurrent dans la ville. Cette alerte a été lancée par David Chikuru, acteur sociopolitique et habitant de la ville de Bukavu, dans un entretien avec Radio Mandeléo le week-end. Cette alerte intervient après avoir constaté que depuis le mois de février dernier, des cas similaires aux enlèvements caractérisés par des disparitions des personnes continue d'être signalé dans la ville de Bukavu. À l'en croire, les bourreaux utilisent plusieurs canaux pour aboutir à leurs objectifs, tels que les appels téléphoniques et les engins roulants. Aussitôt leur mission est accomplie, ils conditionnent la libération du concerné par les paiements d'une rançon. David Chikuru demande à la population de prendre des précautions dans tous les mouvements et plaide pour l'implication des autorités pour attraper et punir les personnes impliquées dans cette pratique.
Nous avons enregistré au moins une dizaine de cas d'enlèvement depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui. Et le dernier cas, c'est le cas survenu la semaine passée au niveau de Nyawera, où une maman a pris un taxi pour se diriger vers la voie du Congo pour aller chez elle. Malheureusement, elle a été détournée par ce taximen. La maman a été retrouvée vers Katokota. Ce sont des messages qui revenaient maintenant à la famille, comme quoi si on ne paie pas les rançons, le pire va arriver à la maman. La famille a payé les rançons. Il y a d'autres cas de jeunes époux qui ont été l'un enlevé vers Paysage dans le quartier Nyalukemba, l'autre vers Panzi et d'autres à Kadutu et à Bagira. Nous demandons à la population, quand vous entrez dans un taxi, observez bien les numéros d'immatriculation, mais aussi communiquer à la famille. Je demande aux gens de ne pas circuler tard dans la nuit, que ce soit sur une moto, dans un bus, il y a des risques. Nous demandons aux autorités de nous aider pour dénicher ces groupes de malfrats qui sont en train de malmener la population pendant cette période difficile.
David Chikuru dans ses propos recueillis par notre confrère Samuel Abamungu. Et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maendeleo à Bukavu et dans les territoires d'Ouvira. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Et changeons de chapitre. À présent, l'imposition d'un taux élevé des taxes aux importateurs et fabricants de boissons fortement alcoolisées serait une solution appropriée pour limiter la prolifération de ces produits en province. C'est ce qu'estiment plusieurs habitants de la ville dans plusieurs alertes faisant état de la présence jugée massive des boissons fortement alcoolisées et vendues publiquement dans la rue. Cette présence massive des boissons alcoolisées conduit à une consommation sans réserve avec des conséquences qui vont de la rupture sociale jusqu'à briser des liens familiaux, la délinquance et l'abandon des familles pour les consommateurs. Pour plusieurs parents, la génération actuelle congolaise est gravement menacée par ces substances qui entraînent la dépendance, les troubles psychologiques, la perte des valeurs morales et la détérioration de la santé. On écoute à ce sujet Augustin Batanzi qui estime que les jeunes devraient plutôt développer des initiatives entrepreneuriales et des activités productives afin de construire un avenir meilleur au lieu de sombrer dans l'ivresse.
Le pays que nous avons aujourd'hui, avec beaucoup de problèmes, les problèmes des guerres, vous allez savoir que on peut endormir même les jeunes à partir de boissons. Et aussi, c'est une politique de guerre. Les jeunes éviter ces boissons et s'occuper de leur vie de demain. Sinon, nous allons perdre et le pays et tout ce que nous pouvons avoir. À nos autorités, voir comment éviter ces boissons qui viennent d'ailleurs, dans des pays limitrophes. Les boissons passent par des douanes. Ces boissons sont contrôlées par l'OCC à la douane. Les services d'hygiène. Et cela, si ça impacte outre nos frontières, c'est puisqu'il n'y a pas un contrôle sévère. Je demande à tout le monde, à nos autorités, de protéger cette jeunesse de demain qui peut nous remplacer.
Il invite également les parents à renforcer l'éducation familiale, les dialogues et l'encadrement des enfants afin de prévenir l'abus dans la consommation de ces substances afin de protéger l'avenir de la jeunesse congolaise. Et je vous prends Hélène Boudjiriri. Au moment où le monde célèbre le 11 mai de chaque année, la journée mondiale des espèces menacées, les regards se tournent vers le site Kivu, une province dont la biodiversité reste remarquable mais de plus en plus exposée. Les parcs restent fragilisés, les réserves sous pression avec une conséquence flagrante sur les espèces animales et végétales menacées.
Dans plusieurs territoires du sud Kivu, la destruction du couvert forestier se poursuit sous l'effet de la coupe illicite du bois, de la carbonisation et de l'extension agricole. Des structures environnementales locales alertent sur la dégradation progressive de certaines zones forestières avec un impact direct sur les habitats naturels. C'est par exemple le parc national de Kahuzi-Biega, l'un des principaux patrimoines écologiques de la province qui demeure parmi les zones les plus sensibles. Classé au patrimoine mondial, il abrite notamment les gorilles des plaines orientales. Selon l'UNESCO, ce parc reste confronté au braconnage, à l'exploitation minière illégale, aux incursions des groupes armés ainsi qu'à l'occupation de certains espaces protégés. Reconnu pour sa richesse exceptionnelle en espèces animal et végétal, la réserve naturelle du Tombwe fait aussi face à de nombreuses pressions. Alors qu'elle abrite des primates
plantes rares, plusieurs espèces d'oiseaux et une flore particulière, cette réserve survit malgré les défis de conservation et des manques de surveillance. Dans les territoires d'Idjoui, la réserve des Moussissi figure également parmi les espèces naturelles qui nécessitent une attention particulière. Des observateurs locaux évoquent des pressions liées aux activités humaines, notamment l'exploitation des ressources et l'occupation progressive de certains espaces naturels. Dans certaines zones, comme dans la plaine de la Ruzizi et ailleurs, l'on rapporte un trafic sans précédent d'espèces animales et végétales, en plus de la présence des groupes armés et autres personnes qui servent des espèces animales protégées comme nourriture. La flore subit elle aussi des lourdes conséquences. Déboisements, feux de brousse, constructions anarchiques et exploitations incontrôlées réduisent progressivement la couverture végétale dans plusieurs coins de la province. Sans habitat protégé, la survie des nombreuses espèces devient encore plus incertaine, alerte des activistes environnementaux. Cette année, la Journée mondiale des espèces menacées est placée sous les signes de la protection de la biodiversité, de la sauvetage et de la sauvegarde des habitats naturels, avec un accent particulier sur la responsabilité collective face aux menaces qui pèsent sur la faune et la flore.
Et dans ce même chapitre, la destruction de l'écosystème devrait être considérée comme une infraction pénale afin que les personnes impliquées soient sévèrement punies conformément à la loi. Cette recommandation est de la société civile environnementale au Sud Kivu à l'occasion de la Journée internationale des espèces menacées célébrée le 11 mai de chaque année. Pour Josué Aruna, président de cette structure citoyenne, si les menaces continuent à peser sur différentes espèces, c'est parce que l'État congolais en premier lieu ne met pas un accent particulier sur cette question. Selon lui, les groupes armés ont décidé de tourner leurs armes contre la biodiversité, notamment dans les Katanga et à l'est de la RDC, une situation qui ne fait qu'aggraver les choses avec des graves conséquences déjà visibles. Josué Aruna lance un cri d'alarme suite aux menaces qui pèsent sur les espèces et leurs habitats et invite les autorités à faire preuve de maturité en mettant fin au braconnage à ciel ouvert qui se fait actuellement.
Nous lançons ce cri d'alarme au regard des menaces que nous sommes en train d'observer aujourd'hui sur les espèces et leurs habitats, et notamment les récentes revirements des ambitions des groupes armés. La société civile environnementale les appelle à ne plus continuer à tourner leurs armes sur la biodiversité, car c'est notre avenir commun. Les récentes situations, notamment des massacres de la biodiversité et de la destruction massive des habitats de la biodiversité, nous amènent à alerter sur l'urgence écologique et en mettant en lumière les menaces causées par ces différents groupes armés qui aujourd'hui renforcent le braconnage des espèces et la déforestation.
Rendons-nous dans la ville d'Ouvira où les femmes journalistes de la ville plaident pour une meilleure reconnaissance de leur travail ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elles l'ont dit en début de week-end à Ouvira dans une retraite des réflexions organisées par l'Union des femmes des médias pour la paix UFMP en sigle en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Expédé Diallo.
Les femmes journalistes d'Ouvira disent avoir choisi de transformer cette commémoration en un espace d'échange et d'introspection sur leur réalité professionnelle. Issues de la radio, de la télévision et des médias en ligne, elles ont partagé leurs expériences quotidiennes, souvent marquées par des défis multiples. Entre difficultés sécuritaires sur le terrain, manque d'accompagnement et précarité dans certaines maisons de presse, les participantes ont dressé un état des lieux préoccupant de la situation des femmes dans le secteur médiatique local. Elles ont insisté sur l'importance du renforcement des capacités à travers des formations adaptées aux différentes spécialités journalistiques. Pour Joséphine Mungubi, coordinatrice de l'UFMP, cette initiative marque les débuts d'un processus de mobilisation en faveur des femmes des médias d'Ouvira. L'UFMP entend poursuivre ses efforts en lançant progressivement des activités de formation et d'accompagnement grâce aux contributions de ses membres en attendant l'appui d'éventuels partenaires. Joséphine Mungubi
a lancé depuis la fin de 2025 un cadre de renforcement des capacités des femmes et des filles journalistes. Et on a commencé avec une phase de 10 qui reçoivent déjà des formations, mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres qui en ont besoin et nous, on va s'arranger à notre niveau. Nous demandons aux personnes de bonne volonté, aux bailleurs de fonds, aux organisations humanitaires qui interviennent dans ce domaine et en particulier dans la promotion de l'égalité, de l'équité du genre, de nous appuyer pour voir comment nous pouvons contribuer, améliorer, arriver à contribuer à l'amélioration de la participation des femmes au sein des médias.
À travers cette retraite, les femmes des médias d'Ouvira réaffirment leur volonté de jouer pleinement leur rôle dans la société, tout en appelant à un environnement professionnel plus sécurisé et plus favorable à l'exercice du journalisme féminin.
D'Ouvira, rendons-nous dans les territoires des Kabaré, où un long composé de 40 tôles, des planches et des clous vient d'être remis à l'Institut Kagenge, situé dans les villages Mougour, au groupement des Bouchouira en territoire des Kabaré, par la Fondation Placide Mutabunga. La cérémonie de remise de ces matériaux est intervenue le week-end au sein de cette école conventionnée catholique du territoire des Kabaré, Alain Kabika.
Les représentants du donateur et conseiller au sein de cette fondation, Akilas Ntawakuderoa, soulignent que ce geste est posé sur demande de cette école, dans les soucis d'appuyer les travaux de construction des salles de classe qui sont en cours. Akilas Ntawakuderoa en parle.
Le préfet avait sollicité au sein de la fondation Placide Mutabunga des matériaux de construction de ces classes, et c'est comme ça que nous sommes venus avec colis, des planches, nous avons des tôles, des clous et consorts. Ce n'est pas vraiment pour la première fois. Nous sommes venus vraiment honorer la demande de monsieur le préfet qui avait sollicité au sein de la fondation Placide Mutabunga une aide de construction de ces classes-là. Oui, nous demandons à l'école de pouvoir gérer tous ces biens en bon parent de famille. Nous serons encore revenus voir si réellement ce qu'on a bien construit, c'est que le préfet est toujours souple, plein d'initiatives, il va faire ça. Nous avons toujours été dans plus d'une école à Kabaré. Nous continuons à travailler dans plusieurs secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, aux parents d'élèves et de faire confiance toujours à l'école, de faire confiance à la fondation.
Au nom de l'école, le préfet de l'Institut Kagenge, David Baleka Gemaroy, remercie les professeurs Placide Mutabunga pour ses gestes posés en faveur de son école. Il appelle d'autres personnes à imiter ses gestes pour la promotion de l'éducation des enfants. On l'écoute.
Le grand professeur Placide Mutabunga, après avoir reçu notre demande de soutien, parce que nous sommes en pleine construction de deux salles de classe, il nous arrive avec le matériel de construction. Nous ne pouvons que Dieu puisse le bénir, parce que c'est un offre de soulagement de toute la population scolaire. Je peux seulement demander à toute la nation congolaise, surtout kivusienne, surtout kabaroise, de tenir compagnie au grand professeur Placide Mutabunga dans ses actions concrètes et qui est toute la population.
Pour cette année scolaire, l'Institut Kagenge et compte plus de 185 élèves, à en croire son préfet David Baleka Gemaroy. L'activité s'est tenue en présence d'autres membres de la Fondation Placide Mutabunga, des parents et des élèves.
Merci Alain Kabika et merci de nous suivre au stade Van Nevel de Butembo au Nord Kivu sur le www.radiomaindelo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maindeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La Ligue de football du Sud Kivu a procédé à une rectification du calendrier de la phase finale de la 48e édition du championnat provincial qui se joue à Bukavu. Ce réajustement est causé par la difficulté de certains clubs d'atteindre les sites de la compétition expéditive.
Selon le secrétariat de la Ligue de football du Sud Kivu, plusieurs clubs ont désisté à la dernière minute, ce qui entraîne de facto la modification du calendrier et de la composition des groupes. Alors qu'il était prévu initialement des matchs dimanche 10 mai, le comité d'organisation a changé le programme en fixant les prochaines échéances au mardi 12 et mercredi 13 mai prochain. Le mardi 12 mai, l'US Bilombé en découdra avec le FC Liga Sport. Le mercredi 13 mai à 13h, le TPI Zimero affronte le FC Mazembe. Et à 15h, le FC Lumière de Tibingu en découdra avec le FC Kinga de Walungu. La compétition se jouera désormais avec 16 clubs répartis en 4 groupes au lieu de 24 répartis en 6 groupes comme programmé au départ. Les équipes qui ont déclaré forfait sont entre autres le FC Flambeau de Fizi, le TP Kiliba d'Uvira, le FC Kerr de Baliga de Shabunda, FC Bila Shida de Kalonge, Sakana de Kigulube et FC La Visport de Kasika. Dans un autre chapitre, la préparation des léopards de la RD c'est pour la Coupe du Monde 2026 débutera officiellement le 26 mai 2026 à Kinshasa. Une séance d'entraînement ouverte au public est prévue au stade Tata Raphaël. Cette première phase de préparation sera suivie d'une cérémonie officielle de décoration des internationaux congolais et de remise du drapeau national au capitaine de la sélection par le président de la République. Après l'étape de Kinshasa, les léopards s'envoleront pour la Belgique le 27 mai 2026. Ils disputeront un match amical face au Danemark le 3 juin à Liège, puis une deuxième rencontre contre le Chili le 9 juin en Espagne. La dernière phase de préparation est prévue aux États-Unis à Houston à partir du 11 juin. La RDC y établira son quartier général avant d'entrer en compétition.
La revue de presse Radio Mindeleu capte vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux parissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Myriam Moufano, la situation sanitaire qui s'aggrave à Minova après les retraits des financements et des conditions difficiles dans lesquelles vivent les réfugiés congolais rapatriés du Burundi font partie des sujets commentés par la presse le week-end.
Débutons cette revue de presse par stnews.info qui écrit « La situation sanitaire dans la zone de santé de Minova au sud Kivu se détériore fortement à raison des conflits armés et du retrait progressif des financements internationaux. Médecins sans frontières, contactés par ces médias, alertent sur un risque de catastrophes sanitaires, notamment après l'arrêt du financement de la Banque mondiale via le programme multisectoriel de nutrition et de santé qui soutenait plusieurs structures médicales de la place. Cette crise entraîne des graves pénuries de médicaments, vaccins et intrants nutritionnels dans plusieurs zones de santé du Sud Kivu. À Minova, poursuit ses médias, les conséquences sont particulièrement visibles dans les soins maternels et néonatales. L'hôpital général a instauré de nouveaux frais médicaux élevés, allant jusqu'à 100 dollars pour une césarienne, rendant ainsi les soins inaccessibles à de nombreuses familles. Certaines femmes abandonnent les soins ou accouchent à domicile, augmentant ainsi les risques de mortalité et de la mère et de l'enfant. La fréquentation de la maternité a chuté de 34% depuis 2026, poussant ainsi MSF à demander une intervention urgente des autorités et de partenaires internationaux, conclut stnews.info. De son côté, Jambo RDC.info indique que la dynamique de la société civile pour le développement durable d'Uvira au sud Kivu a dressé une note de plaidoyer aux autorités et aux partenaires humanitaires afin de renforcer l'assistance aux réfugiés congolais répatriés du Burundi. L'organisation estime que la situation humanitaire à Uvira nécessite une attention urgente face au retour progressif des nombreuses familles vulnérables. Selon ces structures contactées par ces médias, ces répatriés rencontrent d'importantes difficultés liées à l'accès à l'alimentation, aux soins de santé, au logement et à l'intégration socio-économique. Les moyens disponibles restent insuffisants par rapport aux besoins réels, ce qui accentue leur précarité. L'organisation souligne également l'importance d'un accompagnement psychologique pour aider les personnes ayant subi les conséquences du déplacement forcé. À travers cette démarche, la société civile contactée par ces médias appelle à une réponse coordonnée et durable, impliquant les autorités publiques, le partenaire financier et les organisations humanitaires. Conclut Jambo RDC.info. Bouclons cette revue de presse par les courriers de Bukavu.com qui indique la Fédération des entreprises du Congo FEC d'Uvira dénonce la multiplication des tracasseries administratives et fiscales qui affectent les commerçants de cette ville du Sud Kivu. Lors d'une réunion tenue la semaine dernière, les opérateurs économiques ont évalué l'impact de ces pratiques sur les activités commerciales, estimant qu'elles nuisent gravement au climat des affaires. Selon le président de la FEC Uvira, plusieurs irrégularités ont été signalées, notamment les non-respects des accords entre les opérateurs économiques et le gouvernement provincial, ainsi que les exigences fiscales jugées excessives de la part de la DGI. Les commerçants contactés par ces médias dénoncent également l'application injustifiée de la TVA, le refus de la DGDA d'appliquer certaines mesures dérogatoires sur les produits pétroliers et l'absence d'un guichet unique à la douane. Dans un contexte déjà fragilisé par l'insécurité, la FEC estime que ces pressions fiscales risquent de bloquer la relance économique de la ville. Les opérateurs économiques demandent ainsi que Uvira soit reconnue comme zone sinistrée ou bénéficie de mesures fiscales spéciales, notamment une réduction des taxes pour soutenir les activités commerciales, conclut le courrier de Bukavu.com.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Situation toujours confuse dans la plaine de la Ruzizi. Des sources sur place rapportent des mouvements des personnes armées et des civils avec leur bétail de sang vers d'autres zones comme Luvungi, Katogota ou encore Kamanyola. et des cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans sont rapportés dans la cité de Kamanyola en territoire de Walungu. Des acteurs sociaux dans la zone évoquent les mouvements de la population et les manques d'emploi suite à la situation sécuritaire comme cause de ces phénomènes. Et en sport, préparation de Léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026, le début prévu pour le 26 mai prochain à Kinshasa avec une séance d'entraînement ouverte au public au Stade des Martyrs. La mise en onde était celle d'Alain Zar à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des radios Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomaïndéléo.org. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.